La meilleure défense de la démocratie, ce sont ses lois. Mais si l'on vient nous attaquer, chaque citoyen doit se battre comme un soldat.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le troisième épisode de notre série consacrée cette semaine à la naissance en Grèce de la démocratie. Les Athéniens ont-ils inventé la démocratie? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Vincent Azoulay, spécialiste de la Grèce antique. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué le rôle unique joué à Athènes par les citoyens qui tous votent, peuvent prendre la parole et juger. Mais beaucoup d'Athéniens ne sont pas citoyens. Comment peut-on parler de démocratie quand les citoyens qui la font vivre ne représentent que 10% de la société? C'est bien le cas à Athènes. L'historien Pierre Vidal-Naquet n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, la cité grecque est tout simplement un club d'hommes fermé sur lui-même. Un véritable fossé, dit-il, sépare les citoyens des autres, les non-citoyens, c'est-à-dire les femmes, les étrangers, les enfants et les esclaves. Sur cette question, la grande spécialiste de la Grèce antique, Jacqueline de Romilly, morte en 2010, balayait l'idée à ses yeux absurde et anachronique qu'on puisse être choqué de l'absence des Athéniennes à la citoyenneté, en rappelant qu'elle-même, dans sa jeunesse, n'avait pas pu voter. De même pour l'esclavage, il n'y a pas si longtemps, dit-elle, que l'esclavage a été éradiqué, il n'est même pas éradiqué de toute la planète aujourd'hui. Alors, pensez au 5e siècle avant Jésus-Christ. Oui, mais cela n'empêche pas qu'on puisse se demander comment les femmes, les étrangers et les esclaves vivaient et étaient considérés dans la démocratie athénienne, eux qui étaient si nombreux, 90% de la population.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Dans sa comédie « L'Assemblée des femmes », Aristophane, au début du IVe siècle, imagine que les femmes d'Athènes se révoltent. Pendant que leurs maris dorment, elles décident de se déguiser en hommes, barbe comprise, et d'aller à leur place prendre la parole à l'Assemblée des citoyens.
Avez-vous tout ce qu'il vous faut ?
Oh, mais certainement !
Voilà le manteau de mon mari, le bâton de mon mari, bien. Les sandales de mon mari et la barbe.
Voilà la mienne si elle est belle.
Et la mienne. Et la mienne est très chère. Vous voyez comme elle est blonde et soyeuse et frisée. Par Aphrodite, j'en suis toute retournée.
Non, écoutez, femme. Chut, et ne perdons pas de temps. L'assemblée va bientôt s'ouvrir. Alors, il convient d'arriver les premières. Il ne faut pas, vous pensez bien, qu'on nous soupçonne d'être des femmes. Alors, mettez vos barbes.
Mais comme vous pouvez l'imaginer, il est difficile dans la production philosophique ou littéraire grecque de trouver un texte écrit par une femme, mis à part la poésie de Sappho, ou de trouver un auteur qui ferait l'éloge des femmes. Depuis le mythe de la première femme, Pandora, et de sa fameuse boîte d'où seraient sortis tous les maux de l'humanité, jusqu'à Aristote, qui justifie, par la nature, l'exclusion des femmes de la politique en les comparant à des animaux. De même, dit Aristote, qu'il est préférable pour tous les animaux domestiques d'être dirigés par des êtres humains, de la même manière, la relation entre le mâle et la femelle dans la cité est par nature telle que le mâle est supérieur, la femelle inférieure, que le mâle dirige et que la femelle est dirigée. Mais dans la réalité athénienne des 5e et 4e siècles, comment vivent les femmes ? Première chose qui va à l'encontre d'une vieille idée reçue, longtemps rebâchée, non, les femmes grecques ne vivent pas enfermées dans un gynécée, une pièce de la maison qui prétendument serait réservée aux femmes. La femme athénienne peut se promener sur l'agora, participer à des cérémonies religieuses, voire peut-être même tendre l'oreille au débat qui se déroule sur la Pnyx. Mais si les femmes ne participent pas au même titre que les hommes à la vie civique d'Athènes, peuvent-elles néanmoins être considérées comme citoyennes ? Ou au contraire, les femmes, les étrangers et les esclaves sont-ils radicalement exclus de la communauté ? Vincent Azoulay.
Ah, il faut distinguer. Pour les esclaves, c'est sûr, l'exclusion est tout à fait radicale.
Totale.
Pour les femmes et pour les étrangers, c'est un petit peu différent et un petit peu plus compliqué, peut-être plus intéressant.
Les femmes d'abord ?
Alors, les femmes sont citoyennes. Le terme existe, on parle de politis, politidae, ou astai. Il y a véritablement une citoyenneté des femmes, mais qui effectivement s'arrête aux portes de l'Assemblée et des institutions politiques formalisées. En revanche, elles ont un rôle éminent, voire crucial, dans les relations que la cité, que la communauté entretient avec les dieux. Et c'est absolument crucial. Les prêtresses, notamment la prêtresse d'Athéna Polias, la gardienne de la cité, c'est une femme, et Lysistrata, la Lysistrata d'Aristophane, en est inspirée tout à fait directement. Il y avait une prêtresse qui s'appelait Lysimachée, qui a pendant 64 ans été prêtresse d'Athéna Polias, et qui est... celle qui a inspiré le personnage d'Aristophane. Donc, les femmes sont exclues de la citoyenneté au sens politique, mais elles sont citoyennes et elles jouent un immense rôle dans l'ordre sacral de la communauté.
Et les étrangers, alors qui sont-ils, ceux qu'on appelle les métèques? Est-ce que ce mot en grec a une dimension méprisante et raciste, comme le mot métèque a pris en français?
Alors absolument pas. Les métèques, c'est l'étranger domicilié, c'est le fait qu'au bout d'un mois de résidence, on est obligé de s'enregistrer auprès d'un citoyen qui devient... le patron du métèque, et qui va pouvoir faire toute une série d'actes juridiques pour celui-ci, notamment s'il a des problèmes qui l'amènent au tribunal, il a besoin d'un représentant. Mais en revanche, les métèques sont protégés, ils participent à la vie de la collectivité, ils participent à certaines grandes fêtes, des grands sacrifices. Alors certes, parfois pas au même titre exactement que les citoyens, mais ils sont intégrés, ils combattent aux côtés des citoyens. Ils sont taxés aussi, comme les citoyens, et ils ne sont en rien méprisés.
Mais quand on dit étrangers, est-ce que ce sont des Grecs qui viennent de la cité d'à côté, ou est-ce que ce sont des non-Grecs qui viennent de très loin? Quelles sont leurs fonctions? Est-ce qu'ils font des métiers déshonorants ou pauvres, ou est-ce qu'ils sont au contraire des marchands riches?
Alors, tout est possible. La plupart sont malgré tout issus de ces centaines de cités grecques qui environnent Athènes. Lysias vient de Syracuse, par exemple, l'un des métèques les plus célèbres d'Athènes. Il y a des riches, il y a des pauvres. Ils sont souvent, parce qu'ils n'ont pas facilement accès à la terre, soit artisans, soit commerçants, mais qui ne sont pas des métiers dévalorisés, sauf dans l'esprit d'une toute petite fraction de l'élite qui pense que la seule richesse valable est celle qui provient de la terre. Mais ce n'est pas du tout majoritaire à Athènes. Donc, il y a des riches, il y a des pauvres, ils sont intégrés, la plupart parlent grec et jouent un rôle très important dans la collectivité et souvent combattent et meurent avec les Athéniens.
Et les esclaves, alors qui sont-ils?
Alors, les esclaves...
D'où viennent-ils aussi?
Alors, ce sont soit des prises de guerre. Quand on perd une bataille, eh bien, l'un des risques pour les hommes, les femmes ou les enfants, c'est de devenir esclaves. Ils viennent aussi de certains marchés d'esclaves, parce que effectivement, la Grèce est l'une des premières sociétés esclavagistes de l'histoire. Donc, il y a plusieurs moyens de les acquérir, par la guerre, par le commerce. Ils sont très nombreux, plusieurs centaines de milliers, certainement 4 pour un citoyen à Athènes. Ce qui ne veut pas dire, et c'est très important, que les citoyens athéniens ne travaillent pas. Et que tout le travail serait accompli par les esclaves. La plupart des Athéniens travaillent. Mais ces esclaves sont donc des Grecs et des barbares, ceux des non-Grecs, qui viennent notamment d'Asie mineure, de Carie ou de Thrace, du monde Scythe. Il y a une grande variété de ces esclaves qu'on appelle des esclaves marchandises.
Est-ce qu'ils ont des droits, ces esclaves, à Athènes?
Ils n'ont aucun droit. Ils sont renommés par le propriétaire qui a un droit de vie ou de mort sur ses esclaves, qui contrôle jusqu'à sa vie familiale, sexuelle, avec d'autres esclaves. Tempéré tout de même par ce que les Athéniens appellent l'hubris, la démesure. Alors d'une part, il n'est pas raisonnable de s'en prendre à ses propres esclaves. On abîme un bien qui a une valeur économique, mais aussi parce que il y a un outrage qui est fait aux dieux si on se comporte de cette manière. Donc il n'y a pas de droit, mais il y a malgré tout des comportements qui sont relativement régulés et qui font même dire, et c'est ça toute la complexité de la société athénienne, qui font dire aux opposants à la démocratie que être esclave à Athènes, c'est formidable. C'est presque comme être étranger, voire citoyen. Et c'est ce que disent les grands opposants à la démocratie, que sont le pseudo-Xénophon ou Platon.
Est-ce qu'il y a eu des époques où la démocratie athénienne a fait accéder des étrangers ou des esclaves à la citoyenneté? Bon, je ne parle même pas des femmes, mais...
Tout à fait.
Des esclaves sont pu devenir
citoyens. Les esclaves sont devenus d'abord étrangers, voire citoyens. On a des trajectoires météoriques, par exemple le banquier Pasion qui passe de l'esclavage à la citoyenneté. Mais on a aussi des moments de crise, notamment lorsque Athènes est en difficulté contre Sparte, peut-être même à Marathon, au début de la démocratie athénienne, lorsque Athènes est confrontée aux Perses, on a la promesse de liberté faite aux esclaves en échange de leur appui militaire.
Et il y a une question de fond, évidemment, assez embarrassante. Est-ce que la démocratie athénienne, pour exister, avait besoin de l'esclavage?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que si on pense que toute l'infrastructure économique athénienne dépendait du travail des esclaves, c'est faux. Disons, le peuple travaillait aussi tout autant. Et donc, il ne faut pas imaginer des citoyens oisifs profitant du travail des esclaves. C'est une infime minorité qui peut se permettre ce luxe, cette scolaire, ce loisir, ce qu'a donné l'école. En revanche, l'esclavage a certainement configuré en profondeur le rapport des citoyens à la liberté. Une liberté qu'on pense totale et sans demi-mesure entre la totale liberté et l'esclavage. Donc il y a certainement un rôle imaginaire, il y a un rôle économique bien sûr, mais aussi un rôle imaginaire de l'esclavage dans la façon dont les Athéniens ont conçu leur propre liberté sur un mode absolu, dont l'envers est l'esclave.
Oui, c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à comprendre pour nous aujourd'hui.
Eh oui, l'histoire est école de complexité.
Merci Vincent Azoulay. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un personnage central de la démocratie athénienne au 5e siècle avant notre ère, le grand stratège Périclès.